session de philosophie par le père Marie-Dominique Philippe, le 9 juillet 93 à Saint-Jeudard.
C'est presque la fin. C'est pour ça que ça chauffe. Quand même, on aura une petite conférence ce soir, avant les adieux. Si vous avez des questions qui demeurent, qui se posent, essayez de les poser par écrit pour me les remettre dans la dernière conférence. Parce que j'aime pas qu'on parte avec des questions. J'aime mieux qu'on puisse au moins y réfléchir ensemble. Il y en aura toujours qui se poseront. Alors, le beau peut-il être une voie d'accès à l'existence de l'être premier? Vous comprenez? Le beau, on va voir ça avec le point de vue de l'art, donc je le rejette pour le moment. Quand vous dites à propos de la seconde voie, la réponse est dans l'interprétation, dans l'interrogation. Qu'est-ce que c'est? Existe-t-il une vérité première? Il existe une vérité première, voyez. Est-ce une réponse critique? Non, c'est pas une réponse critique. C'est, voyez, c'est bien de poser la question. Parce que ça montre toute la différence avec la manière dont saint Thomas traite les voies d'accès. Au plan métaphysique, je vous disais, on est en face d'une remontée verticale extrêmement rapide. On passe de l'expérience et grâce à l'interrogation à la conclusion ultime. Il n'y a pas d'intermédiaire. C'est ça qui est extraordinaire. Il n'y a pas de régression à l'infini. Je n'en ai pas parlé. Je devais en parler. C'est bien, je vais en parler maintenant. Mais il n'y a pas de régression à l'infini. On est devant le principe de causalité finale dans tout son aspect vertical. On passe une réalité qui implique une potentialité, donc une limite, qui implique une limite, donc une potentialité, c'est plus juste de dire ça, puisque la limite, je l'expérimente, la potentialité, je ne l'expérimente pas, mais à partir de la limite, je la pose. Et on voit que tout ce qui est en puissance dépend de ce qui est en acte. Et ne peut être intelligent et ne peut exister qu'à partir de ce qui est en acte. Donc c'est très direct. Alors il y a un cas très particulier. C'est ce que j'avais essayé de vous montrer ce matin. Je sais bien que c'est pas commode. Parce qu'on n'est pas habitué du tout. On lit les voies de saint Thomas, on n'y comprend pas et on se repose dessus. Vers ce bon professeur qui transmet. On a le droit de transmettre l'espèce humaine sans rien comprendre, mais on n'a pas le droit de transmettre la vérité sans la comprendre. C'est toute la différence, vous voyez, de la fécondité selon la chair et le sang et la fécondité intellectuelle. On doit comprendre et on doit le vivre pour le transmettre. Vous voyez, je n'aurais pas le droit de l'écrire. J'ai pensé ça avant-hier. Je ne comprends plus rien du tout maintenant. J'ai mal à la tête, alors je vous lis. C'était ce bon professeur qui faisait ça, je me souviens. On était en théologie. Il a toujours écrit. Il continuait de le lire. Ce coup, vous redatez d'il y a 20 ans. Alors je le remettais. Mais tout d'un coup, on avait déjà c'était aux trois quarts du cours. Trois quarts de temps, une demi-heure de l'heure. Je dis, ah, pardon, à tout ça, j'ai dit ça il y a 10 ans, mais maintenant je le dis plus. On doit revivre intellectuellement ce qu'on communique. Si on ne revit pas intellectuellement ce qu'on communique, il suffit de le lire. Or, il faut bien voir que la métaphysique se transmet mieux oralement que par écrit. Parce que oralement, vous êtes en présence de quelqu'un qui vit ce qu'il dit. Tandis que par écrit, vous devez vous-même le vivre. Alors quand vous l'avez compris, ça va très bien, c'est un rappel. Mais quand vous ne l'avez pas compris, ce n'est pas suffisant. La lecture ne nous fait pas avancer. C'est ça qui est très curieux. La lecture permet de répéter. Parce qu'on peut apprendre par cœur. Alors pour les examens, c'est très bien. Parce que pour les examens, on n'a pas besoin de comprendre. On le sait, mais on n'a pas besoin de comprendre. Si l'examinateur est très intelligent, il vous arrêtera quand vous réciterez votre histoire. Il arrêtera de dire, c'est pas la peine de réciter ça, je connais. Mais ce que je vois, c'est si vous avez compris. Alors ça, c'est tout à fait différent. Alors on le coince. Si on veut être un bon examinateur, n'est-ce pas ? Pour voir si on a compris. Alors, je disais cette chose sur laquelle je crois qu'il faut beaucoup réfléchir. Quand je pose la question, il faut bien voir quand je la pose. Cette question, je peux la poser dans toute sa force. Ayant pensé toute l'analyse de la métaphysique, de ce qui est en tant qu'être, avoir découvert que l'être du je suis, qui m'est présent d'une manière toute particulière, va se manifester à travers ma capacité d'aimer. Je suis aimant. Je suis recherchant la vérité. Et dans cette vision de recherche de la vérité, il y a un moment critique, un haut plateau. Existe-t-il une vérité première ? Qui devient contemplative. chose qui devient contemplative, c'est une intelligence sapientiale. Et à ce moment-là, je sais que cette contemplation exige la coopération de l'amour et de l'intelligence. C'est pour cela, vous voyez, que dans le point de départ, expérience externe, expérience interne sont liées. Et c'est grâce à ces deux expériences liées que, si Dieu existe, mon intelligence peut se mettre à contempler. C'est un bouleversement intérieur qui se crée. Hein. Je ne suis plus le même homme. Si j'affirme que Dieu existe, ou si au contraire je dis non, Dieu n'existe pas. Je ne suis plus le même homme. C'est extrêmement curieux, ça. On n'y pense pas assez, ça. Parce que, j'allais dire, on est né chrétien. Alors, ce serait bien si on était comme ça. Ah, attention, attention. Hein. Votre vie chrétienne, c'est la grâce. Et la grâce veut que votre nature soit le plus disposé possible à vivre de cette grâce. Et donc vous devez, c'est un devoir impératif d'être intelligent pour Dieu. Et vous êtes intelligent pour Dieu si vous mettez, puisque votre intelligence peut découvrir l'essence de Dieu, si vous mettez toutes les capacités de votre intelligence à poser la question et à la résoudre. Est-ce qu'il existe un être? Est-ce qu'il existe une vérité première qui ne fasse qu'un avec son être? Donc une vérité première subsistante. Et cette interrogation qui est l'interrogation suprême. Il n'y a plus d'interrogation au-delà de celle-là. Après, je contemple. Après, j'adore. Et je contemple. Donc ça, la vraie interrogation, c'est une interrogation au sens le plus fort. Et parce que cette interrogation porte sur l'existence d'un être premier au niveau de l'esprit. Cet être premier ne peut être qu'un esprit. Cet être premier, s'il existe, il peut être qu'un esprit. Il peut être un esprit parfait, donc qualifié, vérité. Et vérité première qui n'est mesurée que par elle-même. Il n'y a que Dieu qui est mesuré par lui-même. Dieu, vérité, c'est Dieu qui se connaît lui-même, qui est lumière pour lui, qui se connaît lui-même et qui est mesuré par lui-même, pas mesuré par un autre. Donc, cette interrogation a un poids étonnant au point de vue de la vie d'intelligence. Et vous voyez bien que elle touche une réalité substantielle. C'est une interrogation qui actue ce qu'il y a de plus profond dans mon intelligence, qui actue ce que mon intelligence peut saisir, plus exactement adhérer, puisqu'elle ne peut pas le saisir, adhérer en dernier lieu la vérité première. Et c'est pour ça que je peux dire à ce moment-là que la réponse est contenue dans l'interrogation. Et vous comprenez bien, elle est contenue dans l'interrogation autrement que dans la réalité. Elle est contenue dans l'interrogation selon mon mode interrogatif. Et elle est dans la réalité selon un mode existentiel. Mais le contenu, il est dans l'interrogation. C'est une interrogation unique, celle-là. C'est l'interrogation la plus intelligente qu'on pouvait poser. Si vraiment vous la posez en comprenant tout ce qui est impliqué dedans, alors c'est la vitalité même de mon intelligence. C'est pas du tout la critique. La critique pourra dire, oui, il est légitime de poser une telle interrogation. Ah oui, alors là, très bien. Oui, si quelqu'un me critique comme ça, vous ne pouvez pas poser cette interrogation. Mais qu'est-ce qu'il vous dit que je ne peux pas la poser? Je vais vous montrer au plan critique qu'il est légitime de la poser. Vous voyez, ça c'est différent. Mais la poser n'est pas critique, c'est la vie d'intelligence. C'est l'intelligence qui va jusqu'au bout de son appétit, de sa soif. C'est pour ça que c'est si impressionnant. Je continue à répondre aux questions. Lorsqu'on dit qu'il n'y a pas de distance entre l'exister de Dieu, de la vérité première, et mon mode d'intelligence, et mon acte d'intelligence qui atteint cet exister, que veut-on dire par il n'y a pas de distance? Je veux dire que, imaginativement, je me représente toujours le fini et l'infini. Et imaginativement, je me représente l'infini comme le fulcan, à partir du fini qui est lui mesuré. C'est une représentation imaginative, donc qui n'est pas réelle. Pose l'interrogation, existe-t-il une vérité première? Une vérité dans laquelle le vrai ontologique et le vrai formel, qualité de l'intelligence, ne font qu'un. Cette interrogation, c'est la vie de mon intelligence. C'est donc à la fois ce qu'il y a de plus immanent en moi et ce qui aussi tend à mon intelligence qui veut s'élever le plus loin possible. Et elle s'élève intentionnellement le plus loin possible. Et lorsqu'elle conclut, il existe nécessairement une vérité première. Et elle conclut ça à cause de la finalité de la vie de l'intelligence. C'est le principe de finalité qui me permet de conclure. Je conclus, il existe vraiment une vérité première. Cette vérité première est distincte de mon interrogation. Mais elle enveloppe de mon interrogation. Elle est présente réellement dans mon interrogation. Et ça veut dire pas de distance. C'est ce qui me permet, vous voyez, d'atteindre, d'adhérer à cette vérité première, puisque le contenu de cette vérité première, autant que je peux la connaître, est dans mon interrogation. Et l'exister de l'être premier auquel j'adhère, auquel j'affirme, ne modifie rien à mon interrogation. C'est ça qui est extraordinaire. Mais modifie contenu. Comprenez bien. Le contenu est le même. La découverte de l'existence de l'être premier ne modifie pas ma connaissance analogique de l'être, mais modifie mon adhésion, le jugement.
Le Dieu créateur du ciel.
sujet est athée, le philosophe peut l'atteindre. Et le chrétien l'atteint. Et le philosophe peut l'atteindre. S'il atteint vraiment Dieu, il atteint le créateur du ciel et de la terre. Donc il faut bien saisir ça. Pascal a tout à fait raison face à Descartes. Alors je dirais que le Dieu qu'atteint Descartes n'est pas le Dieu des philosophes, c'est le Dieu de Descartes. Tandis que le Dieu qu'atteint Aristote, Noésis, Noéséos, c'est le vrai Dieu. Et c'est le Dieu des chrétiens. Mais les chrétiens auront de ce Dieu une révélation de sa vie intime. Ayant une révélation de sa vie intime, le chrétien pénétrera dans le mystère de Dieu d'une façon tout à fait particulière par son Fils bien-aimé, par le Christ. Et donc il aura une vision interne de Dieu que n'a pas le philosophe. Mais c'est le même Dieu. C'est pas deux dieux différents. C'est la raison formelle sous laquelle le philosophe atteint Dieu et sous laquelle le théologien, le latin, le chrétien, ils sont différentes. Mais ce sera la même réalité. Je continue, puisqu'il faut quand même continuer. Troisième fois, le « je suis ». Je l'ai faite tout à l'heure. Je reviens un instant dessus pour bien comprendre que ce « je suis », je peux m'y arrêter, me contenter de regarder ce « je suis ». Mais si je recherche la vérité jusqu'au bout, je ne peux pas m'arrêter où je suis. Pourquoi ? Parce que je fais tout de suite la comparaison entre le « je suis » et mon « je suis ». Et ceci est... Le « je suis » assume ceci est... Mais ceci est à une extension beaucoup plus grande, une extension quantitative, la multiplicité des êtres, et peut-être une intensité plus grande. Parce que dans ceci est, je peux isoler et voir la ratio N10. Et le je suis est une manière de réaliser cette ratio N10 telle manière. Mais ce n'est pas identique à la ratio N10. C'est une manière limitée de réaliser la ratio N10. Le je suis n'est pas égal ratio N10. Je ne peux pas dire ça. Donc, je me pose la question nécessairement très impressionnant au point de vue métaphysique de comprendre le « je suis » dans cette lumière de la finalité. Mon « je suis » n'est pas l'acte d'être. Il est un acte d'être. Il n'est pas l'être absolu. Il est relatif à un être absolu. Et ceci en raison du principe de causalité finale. Voyez. Je ne découvre pas le créateur, mais je découvre le « je suis absolu ». En qui le « je suis » et l'être existent d'une manière éminemment et d'une manière unique. Le « je » de Dieu, que je ne peux pas saisir, en métaphysique, en philosophie. Je n'entends pas le jeu de Dieu, mais que je peux saisir par la foi. Le jeu de Dieu peut se révéler à moi. Aucune impossibilité. Je ne saisis pas dans son mode infini comme réalité première, mais je le pose parce que je suis en acte d'être et je suis limité dans mon être, donc je ne suis pas l'être premier, donc je dépends d'un autre. C'est toujours le point de vue de la finalité. Je suis un être capable d'organiser ma vie humaine. Je ne dis pas « je suis une cathédrale de molécules », comme disait un professeur de biologie. Chaque fois que je vois un homme, je dis « quelle belle cathédrale de molécules ». C'est vrai. Cathédrale extraordinaire. Mais je puis réfléchir sur ma vie morale et ma prudence. Je suis un être capable d'organiser ma vie. Et ceci fait partie de mon « je suis », de ma personne. C'est très important, vous voyez, de voir qu'il y a une possibilité pour moi d'organiser les diverses activités en vue de la fin. Je suis un être capable d'être prudent. Et cela fait partie directement de mon « je suis ». Donc il y a une multiplicité organisée, vitale, en vue d'une fin. dépendant de cette fin. C'est moi-même qui l'organise. Je pourrais être imprudent. Et je peux maintenir en moi un certain équilibre vital. Je peux maintenir en moi un certain équilibre, un ordre de mes activités morales, de ma responsabilité. Je suis responsable de moi-même.
Expérience douloureuse, c'est que je peux
nécessairement un être qui soit le vivant parfait. Qui n'a plus besoin d'organiser sa vie. Puisque sa vie est infinie, sans limite. Le travail, c'est l'expérience interne du devenir. Tout ce que je touche de matériel ému est capable d'être ému. vis dans une famille, dans une petite communauté. Il suffit d'un seul être qui crée autour de lui un cyclone. Il suffit d'un seul être qui crée autour de lui un calme, une paix. Très, très curieuse. Là, vous constatez que vous êtes limité et en même temps, vous êtes actif. Vous bâtissez, vous agissez. Et le travail est tout le temps comme ça. C'est l'expérience interne que je suis capable d'agir sur une matière, de la transformer. Et je suis moi-même transformé par cette matière. Un bon ouvrier du bois. Vous savez, entre parenthèses, que le mot grec « oulé » qui veut dire « bois » veut dire aussi « matière ». C'est très très joli ça. Vous allez tout de suite comprendre le génie grec. La matière c'est « oulé », la matière c'est le bois. Ça montre tout de suite le travail. L'artisan, il travaille sur le bois, il travaille sur la matière. Il la transforme, et il est transformé par elle. Je suis à la fois actif et passif. Je suis conditionné par mon milieu. Et je domine mon milieu. À certains moments, je suis complètement dominé par lui. Lorsque vous dormez. C'est pour ça que les enfants n'aiment pas dormir. Pourquoi ? Parce que dormir, c'est s'en remettre passivement à son milieu. Ça se voit, c'est dans le je suis. Le lien.